Vous écoutez On lit pour vous.
Chuter en silence. Un texte de Florence Dujoux, publié dans l'actualité édition de juillet-août 2026. En sous-titre, même si les athlètes féminines de sport artistique dégagent grâce et beauté, elles s'avèrent bel et bien vulnérables aux commotions cérébrales. Exécuter avec le sourire, les sauts auxquels se livrent les gymnastes semblent faciles. Pourtant, 60% des athlètes féminines de sport artistique ont déjà subi au moins une commotion cérébrale au cours de leur carrière sportive, révèle une étude de Gabrielle Cadotte, doctorante en sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal. Elle a interrogé 376 athlètes pratiquant la natation artistique, la gymnastique, le patinage artistique et le cheerleading. Pire, les blessés ne sont pas toujours pris au sérieux, a-t-elle constaté lors d'entretiens avec 29 athlètes ayant subi une ou plusieurs commotions cérébrales liées au sport. Certaines lui ont raconté que leur médecin doutait de la possibilité de souffrir d'une commotion cérébrale dans leur discipline ou que leur entraîneur n'était pas à l'écoute de leurs besoins. D'autres ont confié avoir repris la pratique de leur sport avant leur récupération complète en raison de pressions associées à la performance ou par peur de prendre du poids. Les risques de blessures sont multipliés par l'absence de protection. Ces athlètes s'exécutent sans casque parce que, guillemets, il faut que ce soit beau, fin des guillemets, explique la doctorante. Gabrielle Cadotte voit dans ces données le reflet de préjugés persistants à l'égard de disciplines majoritairement féminines et le signe d'une mauvaise compréhension de leur réalité. Citation, ces sports sont associés à une culture de la perfection, affirme-t-elle. Si le numéro paraît facile en compétition, c'est que la plupart des blessures surviennent à l'entraînement lorsque les athlètes essaient de nouvelles figures. Fin de citation. Même si les disciplines artistiques ne sont pas classées parmi les sports de contact, les chorégraphies génèrent de multiples risques d'impact. Au cheerleading, les filles qui restent au sol doivent rattraper celles qui exécutent des acrobaties aériennes. En patinage, les femmes sont plus à risque que leurs partenaires. Citation, si la femme est la seule qui est projetée dans les airs, elle va être plus exposée aux commotions, souligne le docteur Gabriel Ostigui, médecin du sport et médecin en chef de l'Institut national du sport du Québec, un organisme privé soutenant les athlètes de haut niveau. Selon elle, une meilleure prévention passerait par la formation de l'entourage des athlètes. Les entraîneurs doivent limiter les situations risquées lors des exercices et adapter la progression technique. Il faut aussi encourager les consultations rapides en cas de chute. Après une commotion cérébrale liée au sport, la reprise de l'entraînement gagnerait à être mieux balisée, estime la docteure Alexandra Dwenge, B-W-E-N-G-E, médecin du sport et porte-parole de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Dans les disciplines artistiques, le protocole de gestion des commotions cérébrales, basé sur la littérature scientifique, qui prône un retour progressif, n'est pas toujours facile à appliquer. Des fédérations ont choisi de l'adapter, sans toutefois disposer de données probantes, selon Gabrielle Cadotte. La plupart des études sur les commotions cérébrales liées au sport s'intéressent aux athlètes masculins qui pratiquent des sports de contact tels que le hockey ou le football. Or, les symptômes semblent pires et la récupération plus lente chez les filles, souligne-t-elle. Citation, c'est très important qu'on s'intéresse aux commotions cérébrales des femmes dans le sport, qui plus est dans les disciplines où elles sont dominantes, conclut le Dr. Dwent. Ces blessures exigeraient peut-être un diagnostic et une prise en charge propre. Citation, mais on ne le sait pas parce qu'on ne les a pas assez étudiées. Fin de citation. Et c'est la fin de ce texte titré « Chuter en silence » signé Florence Dujoux, publié dans l'actualité, édition de juillet-août 2026.
FEM, la série pour ados qui ose la transidentité, un texte de Florence Tison, paru le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue. Le drame musical financé par le Fonds des médias du Canada fait le pari rare de placer une adolescente trans au cœur d'une série jeunesse. Ses créateurs reviennent sur leur volonté de raconter cette histoire dans le climat actuel et sur les défis de rejoindre le jeune public. En 2024, FEM a accompli quelque chose que très peu de séries jeunesse avaient osé faire auparavant, placer l'émancipation d'une adolescente trans au centre de son récit. La télévision a certes offert quelques personnages trans marquants dans les dernières années, pensons notamment à Euphoria, mais peu d'œuvres leur ont accordé une place aussi centrale que celle de Zav, un musicien franco-ontarien de 16 ans qui rêve d'intégrer le conservatoire tout en explorant secrètement son identité féminine. Et c'est au Québec que cette série, diffusée sur les plateformes de TV5+, anciennement UniTV, et de Netflix, la saison 1, est née. C'est quand même 10% de la population qui fait partie de la communauté LGBTQ+, at large, souligne la réalisatrice de FEM, Marianne Farley. On a le droit d'avoir notre contenu aussi, de faire des projets qui nous touchent. Si le sujet était audacieux en 2024, le producteur de la série, Patrick Bilodeau, constate qu'il l'est encore davantage maintenant avec la montée de l'intolérance face à la transidentité et à la communauté LGBTQ+. En 2 ans, ça a changé à l'international, observe-t-il. Les gens sont frileux, ils savent que ça fait réagir, que ça fait jaser. Ils n'ont pas vraiment envie d'aller là. Le contexte ne décourage pas le producteur d'Hugo Média, bien que, selon son propre aveu, il serait tentant de privilégier des propositions plus conventionnelles. Peu importe, la boîte de production a gardé le cap en allant de l'avant avec une seconde saison de FEM qu'on peut dès maintenant visionner gratuitement sur TV5+. Au rythme de la transidentité. Dans la suite de cette série créée et co-scénarisée par Maxime Beauchamp, Zav, Lenny Kim, est maintenant une jeune femme trans. Elle est sortie du placard et cherche à faire sa place dans l'industrie de la musique. L'autrice-compositrice-interprète a quitté le petit village franco-ontarien de Lanarque pour la scène montréalaise. Et les vrais amis pour les fortes personnalités du spectacle et de la vie nocturne. La première saison avait particulièrement touché les téléspectateurs, comme en témoignent les nombreux messages enthousiastes et souvent touchants reçus par les membres de l'équipe de FEM. On a vraiment vu la saison 2 comme un chapitre 2. Là, on est ailleurs. On est beaucoup dans le monde de la nuit, dans les prestations musicales, dans les clubs et dans les questionnements de l'expression de la féminité, explique Patrick Bilodeau. Au fil des 10 épisodes, Zav se demande quel genre de femme elle est et ce que cette femme représente pour elle, quitte à se perdre dans sa quête identitaire. La musique, loin de la simple trame sonore, l'accompagne comme un personnage dans son exploration de l'identité de genre. On avait le goût d'être plus dark, illustre Marianne Farley. La musique est très urbaine. C'est plus techno. On a mis des influences plus hip-hop et trip-hop. Être diffusé par le géant Netflix. Après la sortie de la première saison de FEM, Netflix a approché Hugo Média pour l'acquérir. Pour la boîte de production québécoise, il était essentiel que la série obtienne une fenêtre de diffusion à l'international, alors que seuls les Canadiens y ont accès sur TV5+. C'est sûr que ça donne une bonne tape dans le dos. Ça donne de la crédibilité au projet, dit Patrick Bilodeau. Et tu te dis, Colin, ça veut dire quelque chose. Netflix a aussi l'avantage de favoriser la découvrabilité d'une série auprès des jeunes adultes qui semblent bouder les plateformes et les contenus locaux au profit des géants américains. En 2024, 64% des Québécois de 15 à 29 ans avaient surtout visionné des contenus de l'extérieur du Québec, selon l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, OCCQ. Non seulement ils ne sont pas sur les plateformes québécoises, mais ils ne les connaissent même pas, déplore le producteur. Comment alors intéresser les jeunes adultes aux séries d'ici? Pour la réalisatrice Marianne Farley, ça passe entre autres par l'offre. Il faut prendre des risques. Je pense qu'il ne faut pas être paternaliste, ne pas essayer de leur enseigner comment être un adulte. Les séries jeunesse doivent aussi aller vers ce qui intéresse les jeunes, et non ce que les adultes pensent qui intéresse les jeunes. Je pense que c'est ce qui fait la force de Femme aussi. On reste proche des personnages qui vivent de vrais drames. Pas de troisième saison, mais un nouveau projet. La deuxième saison de Femme sonne la fin de ce drame musical. Le trio créatif composé du créateur et showrunner Maxime Beauchamp, de la réalisatrice Mariam Farley et du producteur Patrick Bilodeau n'a cependant pas dit son dernier mot. Il planche présentement sur une nouvelle série, actuellement en pré-développement. On avait hâte de repartir sur un nouveau projet, dit Patrick Bilodeau. On est à la fois dans une certaine continuité. Ça reste une série éclatée, avec beaucoup de rebondissements, vraiment unique, mais dans un univers complètement différent. Il décrit la série comme une fausse télé-réalité qui suit des couples en lice pour gagner un traitement révolutionnaire de fécondation permettant à quiconque de concevoir un enfant avec son ADN. Le nouveau projet met aussi fièrement de l'avant la communauté LGBTQ+, et ce, peu importe si les gens y sont frileux. Info www.tv5plus.ca. La saison 2 sera prochainement aussi sur Netflix, où vous pouvez visionner la saison 1. C'était Femme, la série pour ados qui ose la transidentité, un texte de Florence Tison paru le 18 juin 2026, dans le magazine Fugue.
Un produit biodégradable permet d'éliminer les pesticides et de préserver la fraîcheur des fruits. Un texte de Tiang Ji Yang, Ling Guo et Tzu Cheng Ivy Chiu, paru le 29 mai 2026 dans La Conversation. De nombreuses personnes rincent et sèchent les fruits et légumes en rentrant des courses, dans l'espoir qu'ils resteront frais jusqu'au moment de les manger. Mais les produits frais sont fragiles. Les raisins flétrissent, les tranches de pommes brunissent et les baies peuvent se gâter rapidement. Les consommateurs peuvent également s'inquiéter de ce qui se trouve sur les fruits qu'ils achètent, notamment les résidus de pesticides. La propreté et la fraîcheur sont généralement considérés comme deux aspects nécessitant des traitements distincts. Laver les aliments est un geste simple qui donne le sentiment d'avoir du contrôle, mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration recommande de rincer les fruits et légumes à l'eau courante et précise que l'emploi de savon, de détergents ou de produits de lavage commerciaux n'est pas conseillé. L'eau est bel et bien utile, mais elle ne résout pas tous les problèmes. Notre récente étude indique qu'il est possible d'allier nettoyage et fraîcheur. Nous avons mis au point un produit biodégradable à double fonction. Il élimine les résidus de pesticides à la surface des fruits et forment une fine pellicule protectrice qui prolonge leur fraîcheur. Il est essentiel d'agir au bon moment. Chaque année, environ un quart des fruits et légumes sont perdus ou gaspillés dans le monde. Pour les produits frais, dont la qualité peut se dégrader rapidement lors du transport, du stockage ou de leur utilisation à la maison, de modestes améliorations apportées après la récolte peuvent changer la donne. Que contient-il et comment fonctionne-t-il? Le produit mis au point dans le cadre de notre étude est constitué de nanoparticules d'amidon, d'acide tannique et de fer. L'amidon est une matière d'origine végétale souvent utilisée en science des aliments car il peut former un film. L'acide tannique est un composé végétal présent dans de nombreux aliments et plantes, et le fer permet de lier l'acide tannique afin de former un réseau délicat à la surface des particules d'amidon. En termes simples, l'amidon sert de base, l'acide tannique apporte des composés végétaux bénéfiques et le fer aide à maintenir la structure. Lors du rinçage, cette structure peut interagir avec des molécules de pesticides qu'on trouve à la surface des fruits et contribuer à les éliminer. Une fois l'aliment immergé, le produit forme une fine couche protectrice. Il ne s'agit pas d'un épais enrobage comme ceux en cire, mais plutôt d'une fine pellicule qui permet de ralentir la perte d'eau et de préserver l'aspect du fruit. C'est important car les gens décident souvent de manger ou de jeter un fruit en fonction de son apparence et de sa texture. Élimination des résidus de pesticides. Notre produit offre d'excellents résultats en termes de nettoyage. Il a éliminé plus de 85 % du thiabendazole sur la surface des pommes, contre 48 % pour l'eau du robinet, 65 % pour le bicarbonate de soude et 61 % pour l'amidon naturel. Le thiabendazole est un fongicide utilisé sur certains fruits et légumes frais comme traitement post-récolte. Nous avons également fait des tests avec deux autres pesticides. Notre produit a permis d'éliminer 93 % des résidus d'acétamipride et 89 % de l'imidaclopride présents à la surface des pommes. Ces résultats donnent à penser que notre solution peut être efficace contre plusieurs types de résidus de pesticides et pas seulement contre un composé spécifique. Cependant, il faut garder à l'esprit que l'étude s'est concentrée sur les résidus qui se trouvent à la surface des aliments. Certains pesticides peuvent pénétrer dans les tissus végétaux pendant la croissance du fruit, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à éliminer après la récolte. On ne doit pas attendre d'un bon produit de lavage qu'il enlève toute trace de pesticides. Il sert principalement à réduire les résidus présents à la surface des fruits et des légumes. Prolonger la fraîcheur. La deuxième partie de notre étude portait sur la fraîcheur. En 15 jours, les raisins non traités ont perdu environ 45 % de leur poids, tandis que ceux lavés avec notre produit n'en ont perdu que 21 %. Les pommes fraîchement coupées ont également perdu moins de poids en 48 heures, soit 9 %, contre 17 % pour les échantillons non traités. Ces changements peuvent influencer les choix des consommateurs. Les raisins traités semblaient plus frais après stockage et les tranches de pommes conservaient leur couleur claire plus longtemps. De tels résultats ont une importance en dehors du laboratoire, car les consommateurs préfèrent des fruits et légumes qui ne sont ni flétris ni brunis. La pellicule a également démontré sa capacité à ralentir l'oxydation et à inhiber une bactérie testée en laboratoire. Cela ne signifie pas que le produit a passé avec succès tous les tests de sécurité requis pour être commercialisé, mais cela indique qu'il pourrait avoir une action plus profonde que de simplement recouvrir la surface de l'aliment. Et cela donne quoi, en pratique? Pour l'instant, notre solution semble plus adaptée aux installations de transformation post-récolte qu'aux cuisines des particuliers. Ces installations sont en effet mieux à même de contrôler la durée du lavage, la concentration du produit, la gestion de l'eau et l'évacuation des eaux usées que les ménages. Nous avons estimé que le coût des matières premières était inférieur à 0,032 $ américains par pomme. Parallèlement, nous travaillons à la mise au point d'une formule en vaporisation destinée à un usage domestique. Nous avons encore du travail à faire. Notre produit doit être testé sur un plus grand nombre de fruits et de légumes dans des conditions commerciales et en suivant l'ensemble des étapes réglementaires requises avant sa mise en œuvre. Le concept n'en demeure pas moins utile, car il aborde le problème sous un angle nouveau. Un produit de lavage ne doit pas se limiter à permettre un simple rinçage. Tout en offrant un meilleur nettoyage, il doit avoir un effet continu afin de préserver la fraîcheur des aliments et de les rendre plus appétissants. C'était « Un produit biodégradable permet d'éliminer les pesticides et de préserver la fraîcheur des fruits ». Un texte de Tianji Yang, Ling Guo et Zhu Cheng Ivy Chiu, paru le 29 mai 2026 dans La Conversation.
La recherche au secours de l'élevage d'insectes. Un texte de Béatrice Saint-Cyr Leroux, paru le 22 juin 2026 dans Université de Montréal Nouvelle. Une équipe de recherche multidisciplinaire de l'Université de Montréal s'est intéressée à la résistance bactérienne du ténébrion dans une optique d'optimisation de cet élevage prometteur. La mouche soldat noire qui convertit les déchets organiques en biomasse. Le grillon qui apporte croustillants et protéines à l'assiette. Le ténébrion meunier qui a le potentiel de dégrader le plastique. Longtemps relégués à la nature sauvage, les insectes font aujourd'hui l'objet d'élevages intensifs, au même titre que certains animaux. Au Québec, comme ailleurs, différentes espèces se sont produites pour leur potentiel nutritif ou écologique et sont bien souvent présentées comme des solutions d'avenir et des enjeux éthiques et environnementaux. Mais derrière cet engouement se cachent des réalités plus complexes. Comme toute production animale, l'élevage d'insectes est confronté à des défis sanitaires, techniques et économiques encore largement sous-estimés. Constatant le manque de lignes directrices au Québec quant à ce type d'élevage, une équipe de recherche multidisciplinaire de l'Université de Montréal s'est intéressée à la biosécurité de ces productions relativement nouvelles. Plus précisément, dans une nouvelle étude, Guillaume Saint-Jacques, alors étudiant au baccalauréat en sciences biologiques, s'est allié à Marie-Odile Benoît-Biang-Camano, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire, et à Colin Favret, professeur au département de sciences biologiques, pour analyser la résistance bactérienne de différentes souches de ténébrion meunier. Vulnérables aux maladies. Les insectes ne sont pas à l'abri des infections, rappelle Marie-Odile Benoît-Biang-Camano. Virus, bactéries, champignons et parasites peuvent rapidement se propager dans un élevage et provoquer une mortalité massive. Contrairement aux élevages traditionnels comme le porc ou la volaille, ceux d'insectes ne bénéficient pas encore d'installations adaptées telles des sas d'entrée, ni de protocoles sanitaires rigoureux comme des changements de vêtements, poursuit la chercheuse. Pourtant, les enjeux sont similaires. Lorsque la production s'intensifie, les risques sanitaires augmentent et les conséquences peuvent être dévastatrices. Ce manque de contrôle a ainsi un effet direct sur l'industrie. Plusieurs éleveurs, confrontés à des pertes répétées et incapables d'en déterminer la cause, un agent pathogène, des conditions environnementales inadéquates ou une combinaison des deux, finissent par abandonner.
Résultat, malgré un fort intérêt initial, le nombre d'éleveurs fluctue vivement et le secteur traverse actuellement un creux, indique la professeure. La biosécurité a un enjeu sous-estimé. Face à ces défis, l'équipe de recherche a voulu mettre la main à la pâte et identifier des souches de ténébrion meunier, aussi appelées vers de farine à l'état de larve, naturellement plus résistantes aux maladies. Guillaume Saint-Jacques a mené des expériences sur plusieurs lignées de ténébrion meunier exposées à la bactérie Serratia marcescens, connue pour infecter plusieurs familles d'insectes. Au total, 200 larves de 10 souches ont été testées pour un total de 2000 larves et deux souches se sont démarquées, soit celle d'origine turque et la française. Certaines présentaient une croissance rapide et une faible mortalité, tandis que d'autres, plus lentes à se développer, semblaient mieux résister aux infections. Cela laisse entrevoir qu'il serait possible d'orienter les élevages vers des lignées plus robustes, précise l'étudiant. Mais les mécanismes derrière cette résistance restent flous. Plusieurs hypothèses sont envisagées. Des facteurs génétiques, le rôle du microbiote ou encore un phénomène appelé amorçage immunitaire, soit la transmission par les parents d'une certaine protection à un pathogène après exposition, explique Marie-Odile Benoît Biancamano. Un secteur prometteur, mais à structurer. Malgré ces difficultés actuelles, l'élevage d'insectes reste porteur, croit l'équipe de recherche. Cependant, pour que cette industrie se stabilise, un important travail reste à faire. Il vaut mieux comprendre les maladies, concevoir des outils de diagnostic, adapter et instaurer des normes de biosécurité rigoureuses, plaide Marie-Odile Benoît Biancamano. Plus largement, cela implique de repenser l'élevage des insectes en s'inspirant des pratiques existantes pour les autres animaux d'élevage, notamment la sélection des souches, le contrôle sanitaire et l'optimisation des conditions de production. Des prochaines étapes qui pourraient être rendues possibles par la multidisciplinarité de l'équipe qui réunit des expertises en entomologie, pathologie animale, microbiologie et agriculture. C'était « La recherche au secours de l'élevage d'insectes ». Un texte de Béatrice Saint-Cyr-Leroux, paru le 22 juin 2026 dans Université de Montréal, Nouvelles.